Écho d'économie.
À la une, le bilan 2013 dressé par le Premier ministre ce week-end. Matata Ponu estime que les réserves d'échange sont stables, ce qui donne plus de sécurité à la monnaie nationale. Et pendant ce temps, sur le marché, le prix des maïs et manioc a carrément doublé. 280 millions de dollars américains pour construire la centrale hydroélectrique de Katende au Kasaï occidental. Lancée depuis juillet dernier, ces travaux s'effectuent sur financement des gouvernements indiens et congolais. L'actualité, c'est aussi la table ronde sur la sous-traitance qui s'est tenue ce week-end à Lubumbashi. Organisatrice de ces assises, la FEC veut promouvoir la main-d'œuvre congolaise et réduire le taux de chômage. Bonsoir et bienvenue sur Radio Okapi. La RDC a atteint à ce jour plus de 1,7 milliard de dollars des réserves d'échange sans appui budgétaire du Fonds monétaire international. Cette stabilité des réserves donne plus de sécurité à la monnaie nationale et permet au pays de projeter une croissance économique à deux chiffres ou encore une croissance économique améliorée. Déclaration du Premier ministre qui dressait le bilan 2013 de l'action du gouvernement le week-end dernier devant la presse à Kinshasa. Selon Augustin Matata Ponyo, cette croissance économique reste un élément moteur pour la création des richesses et l'amélioration du social des Congolais. Le Premier ministre, dans cet extrait que nous propose François Kadima.
La relation entre stabilité et taux de croissance fait qu'aujourd'hui, notre économie fait, sans beaucoup de difficultés, projeter les taux de croissance à des chiffres. La croissance économique, c'est ça l'indicateur clé pour mesurer la création des richesses. Si vous devez augmenter les salaires, si vous devez faire des routes, des hôpitaux, des ceci, vous devez créer des richesses. Vous devez créer des revenus. Et ces revenus doivent être distribués. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que la stabilité macroéconomique, la stabilité réserve d'échange, parce qu'aujourd'hui nous avons atteint un peu plus d'1,7 milliard de dollars, alors que nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international, mais nous avons accru nos réserves d'échange pour donner davantage de sécurité à la monnaie nationale. Nous devons vous dire que cette stabilité macroéconomique, cette création des richesses, nous a permis d'orienter les ressources vers le secteur social.
Pendant ce temps, sur le marché quinois, les prix du manioc et du maïs dans les ports sont passés du simple au double, soit de 35 000 francs congolais à 60 000, voire 65 000 francs congolais pour un sac de cossette de manioc et de 45 000 à 90 francs congolais pour un sac de maïs de 50 kilos. Selon les producteurs et revendeurs, cette hausse est due à la rareté de ces produits pendant cette période des fortes pluies qui rend difficile la transformation. Patron Moulongo, producteur et président du conseil d'administration de l'association des producteurs et transformateurs de manioc, le dit à Jocelyne Moussaoupondé.
Pour sécher le manioc, c'est pas évident. On a 2 à 3 pluies par semaine et on sèche au soleil. Donc à partir de ce moment-là, ça pose des problèmes. Il y a le stockage aussi, quand on n'a pas des lieux où on peut bien stocker, on abîme le produit. L'évacuation est difficile parce que les routes sont impraticables, le transport il coûte un peu plus cher et il devient même rare. Une autre raison, c'est devenu culturel, dans la mesure où les agriculteurs, vu le fait que la transformation est difficile, l'évacuation est difficile en saison de pluie, donc ils s'arrangent pour que plantent leur manioc et fassent coïncider la récolte avec le début ou la période de la saison sèche. Il faut aussi dire que à tous ces éléments s'ajoute le fait qu'il y a maintenant de la spéculation. Les gens profitent de cette situation pour augmenter et faire un peu plus de bénéfices.
Au regard des propos du Premier ministre sur la croissance à deux et cette hausse vertigineuse des prix des maïs et manioc, que pouvons-nous comprendre du concept croissance économique, Paul Matendo?
Eh bien, Mireille, retenons d'abord qu'en économie, la croissance désigne l'évolution annuelle exprimée en pourcentage du PIB, produit intérieur brut, ou du PNB, produit national brut. La croissance du PIB n'implique pas nécessairement une élévation du niveau de vie. Si, par exemple, la croissance démographique est trop forte, même s'il y a une évolution de la production, cette évolution ne sera pas traduite par une élévation du niveau de vie. Les économies africaines, depuis plus d'une décennie, sont pour la plupart caractérisés par une croissance économique qui n'est pas inclusive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas créatrice d'emplois et n'améliore pas les niveaux de vie des populations. Et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Elle affiche des taux de croissance positive plusieurs années d'affilée. Mais ce que les experts déplorent, c'est que cette croissance reste, si on peut se le permettre, théorique. Donc, elle ne tire pas la population de la pauvreté. Ce qui explique par exemple cet écart entre la déclaration du Premier ministre congolais qui, je cite, parle de la stabilité des réserves qui donne plus de sécurité à la monnaie nationale et permet au pays de projeter une croissance économique à deux chiffres avec la réalité sur le vécu quotidien, notamment les cas des prix des maïs et des maniocs qui ont carrément doublé. Rappelez-vous, Mireille, la 7e conférence économique africaine de Kigali, tenue en octobre 2012, avait milité en faveur d'une transformation des économies pour favoriser la création d'entreprises, la construction des infrastructures et l'intégration régionale. Ceci en vue de jouir d'une croissance inclusive qui génère des emplois et dont les retombées sont équitablement réparties entre tous. C'est une croissance qui profite à un grand nombre et dont le monopole n'est pas détenu uniquement par une poignée de personnes. Et dans ces cas, il n'y aura plus d'écart criant entre la croissance économique et le quotidien de la population. Voilà.
Direction le Kasaï occidental, où une importante délégation composée entre autres des ambassadeurs de l'Inde en RDC et de la RDC en Inde, des banquiers indiens et le conseiller du chef de l'État a visité jeudi dernier le site de la centrale hydroélectrique de Katende. Cette délégation conduite par le gouverneur de province était allée se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de cette centrale qui ont débuté depuis juillet 2013 et dont nous parle André Kamba.
Arrivée sur place, la délégation a reçu des explications du coordonnateur indien de la cellule de gestion de construction de Katende 1 et Kakobola, M. Kabeya.
Techniquement, nous sommes à 20% du canal qui est dans l'excavation et 24% dans l'ensemble des travaux sur l'ouvrage. Le 20% constitue le canal d'amener qui est de 340. Les dimensions de largeur sont différentes, 340 de longueur et la largeur diffère des endroits. Normalement, les travaux, fins travaux sont prévus pour février 2016. Donc, des fois, nous avons des intempéries et la lenteur un peu du matériel que nous sommes en train d'essayer de résoudre.
La centrale hydroélectrique de Katende est située à près de 65 km de Kananga. Les travaux de sa construction sont exécutés par l'entreprise indienne Angélique. Selon l'accord de financement signé le 11 juillet 2011 à Kananga, en présence du chef de l'État, le coût global des travaux est de 280 millions de dollars américains, dont 168 à décaisser par l'Inde et 112 millions par la RDC. Cette centrale devra disposer de trois grandes lignes, Katende Mbujima et via Chimbulu, sur une distance de 130 km, Katende Bunkonde 10 km et Katende Kananga 65 km. Plusieurs fois abandonnée par le passé, la réalisation de ce chantier est attendue pour le développement des deux Kasaï. Ce projet a été conçu depuis 1956. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Au nord Ubangi, le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole dresse un bilan positif de ses activités durant l'année 2013. Bilan plutôt critiqué par les autorités et la société civile du nord Ubangi qui estime que la population n'a pas senti la présence du PARSA dans la contrée. Ses composantes se sont exprimées au cours d'un atelier d'évaluation où le PARSA a présenté ses réalisations dans les volets élevage, agriculture et réhabilitation des infrastructures routières. Justin Ntobo, depuis Badolité.
Augmenter la productivité agricole et améliorer la commercialisation de la production végétale et animale par les petits producteurs agriculteurs, tel est l'objectif visé par le projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole. Ce projet a à ce jour atteint sa troisième année d'exécution dans le nord Ubangi et le PARSA se réjouit des activités réalisées jusque là. Dans le secteur agricole, par exemple, les agrimultiplicateurs qui l'encadrent ont produit plus de 36 000 kg de semences de maïs et plus de 10 000 kg des semences d'arachide. 40 parcelles de démonstration permettant aux paysans d'apprendre des méthodes culturales modernes sont installées dans les zones ciblées par ce projet. Concernant le volet élevage, le PARSA a recruté et formé les vaccinateurs des petits ruminants et volailles ainsi que leurs superviseurs. Côté infrastructure, des entrepôts ont été construits ainsi que des marchés. Cependant, les autorités du Nord-Ubangi ainsi que la société civile qui critique ce bilan estiment qu'il n'a pas été satisfaisant, les activités du PARSA n'ayant pas été très visible ni profitable à la population bénéficiaire, disent-elles. Signalons que le coût de ce projet financé par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans est évalué à 120 millions de dollars américains. Badolité, Justin Ntobo, Radio Okapi.
Écho d'économie. Je vous l'ai annoncé, les autorités provinciales du Katanga appellent les entreprises évoluant dans cette province à promouvoir la main-d'œuvre congolaise et réduire le taux de chômage. Elles l'ont exprimé vendredi dernier lors de la table ronde organisée par la FEC Antenne Katanga. Ces travaux ont eu comme objectif examiner la manière dont la sous-traitance est organisée localement en vue de la création d'une classe moyenne. Madeleine Waila.
Au Katanga, la sous-traitance dans le secteur minier est réservée généralement aux étrangers. Les entreprises qui évoluent au Katanga ne font appel qu'à une main-d'œuvre étrangère, alors qu'on peut recourir aux services des sociétés de droit congolais et même à la petite et moyenne entreprise et industrie appartenant aux Congolais. Une réflexion appuyée par celle du premier vice-président de la FEC Katanga qui affirme que la situation touche l'ensemble du secteur économique. Les entreprises recourent généralement à une sous-traitance internationale qui, à leur tour, sous-traite avec les entreprises locales pour l'exécution de leurs tâches. Pour la FEC, cet état de choses ne peut pas réduire le taux important du chômage observé en province d'une participante.
La sous-traitance va faire diminuer le chômage et la pauvreté. La GECAMINE, à l'époque, faisait un chiffre, mais le chiffre qu'on fait aujourd'hui est 10 fois plus que la GECAMINE. Le Congolais est 10 fois plus pauvre que hier.
Les investisseurs qui ont pris part à ces assises se sont réservés de tout commentaire à ce sujet. En rappel, il y a 4 ans, en 2009, le gouverneur de la province du Katanga avait promulgué un dit portant sur la sous-traitance. Dans son discours, Moïse Katumbi a manifesté le besoin de l'effectivité de ce processus pour le développement du Katanga. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Et puis en bref, sachez qu'au Bas-Congo, l'atelier de restitution des audits organisé par la Cour des comptes s'est clôturé ce week-end. Les participants estiment que la Cour des comptes doit être dotée des moyens répressifs. Les mesures qui seront prises lui permettra de décourager les personnes qui volent dans le trésor public. Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une émission supervisée par Nicole Gata, mise en onde par Sylvain Matundu et suivie par vous. Merci.